Ce Shabbat, en France, on va lire la Parasha Bechukotai, et en Israël, on va lire la Parasha Bamidbar. Au sujet du Dvar Malchut sur les Parashiot Be'ar Bechukotai, j'ai pensé qu'il était bien de rapporter une histoire qui est connue, de l'Amor HaZaken et de son fils, l'Amor Emtsaï, pour illustrer justement l'enseignement, le point essentiel du Dvar Malchut sur ces deux Parashiot. Alors on raconte que l'Amor HaZaken, c'était le Balcoré de la synagogue dans laquelle il officiait, et son fils, l'Amor Emtsaï, il avait l'habitude d'entendre la lecture de la Torah par son père. Et un Shabbat, l'Amor HaZaken était absent, et l'Amor Emtsaï a entendu précisément le jour où on récitait les malédictions. Qu'il a entendu les malédictions de la bouche d'une personne qui n'était pas son père, et on raconte qu'il s'est évanoui. C'est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi l'Amor Emtsaï s'est évanoui? Et en fait, on peut donner l'explication suivante. L'Amor HaZaken lui-même, il a expliqué au sujet des malédictions qu'elle cachait toute une bénédiction à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que vraiment, une malédiction, elle cache une bénédiction, seulement on l'entend pas. On la voit pas, on l'aperçoit pas. On n'entend qu'une malédiction. Alors il a donné un exemple. Il a dit qu'il y a une des malédictions de la Torah qui consiste dans le fait que 10 femmes, elles vont cuire leur pain dans un même four. Et ça, c'est une malédiction. Alors l'Amor HaZaken, il vient expliquer dans le Likutei Torah, il vient nous dire qu'en réalité, c'est une bénédiction. Laquelle? C'est que ces 10 femmes qui cuisent leur pain dans le même four, elles représentent les 10 forces de l'âme. À partir du moment où un juif, il s'emploie à l'étude de la Torah avec les 10 forces de son âme, il va intégrer cette étude, et cette étude, elle va faire partie de lui-même. Exactement comme le pain qu'on cuit dans un four, puisque la Torah, elle est comparée à du pain. Et l'Amor HaZaken, il explique qu'on ne peut pas digérer un aliment qu'on ne cuit pas. On ne peut pas manger la pâte crue d'un pain. On est obligé de la mettre dans un four et de le faire cuire. À partir du moment où on fait cuire cette pâte dans le four, alors on peut manger le pain. Le pain, il est cuit et on peut le manger. Et l'exemple, ici, c'est le pain, et il correspond à la Torah elle-même. On ne peut pas intégrer, on ne peut pas faire en sorte que la Torah ait fait partie de nous, exactement de la même façon qu'on aliment, on va le manger, on va le digérer. On ne peut pas intégrer la Torah si on ne la cuit pas. Qu'est-ce que ça veut dire cuire la Torah qu'on étudie? Ça veut dire, c'est quoi le feu qui permet de cuire la Torah qu'on étudie? Le feu, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ressent de l'amour pour Dieu, la Torah qu'on étudie, elle va cuire, elle va devenir une partie de nous-mêmes. Donc à travers cet exemple, on comprend que les 10 forces de l'âme, qui correspondent aux 10 femmes qui cuisent leur pain dans un même four, ces 10 forces de l'âme, à commencer par Chorma, Bina, Da'at, au moyen des forces de l'intellect, on va réveiller dans le cœur, ça c'est l'attribut de Da'at qui permet de partir de la réflexion, de ressentir de l'amour et de la crainte pour Dieu. C'est en utilisant les 10 forces de notre âme, c'est-à-dire en ressentant la Torah qu'on étudie, c'est ça s'employer avec les 10 forces de l'âme à l'étude de la Torah, c'est de cette manière-là qu'on va ressentir l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, et qu'on va permettre à la Torah qu'on a étudiée de devenir une partie de nous-mêmes. Et ça, c'est une bracha, c'est vraiment une bénédiction. La bénédiction qui se cache à travers cette malédiction, à travers la malédiction qui consiste dans le fait que 10 femmes cuisent leur pain dans un même four, cette bénédiction, c'est en réalité quelque chose de très beau, puisque ça signifie qu'un homme, il étudie la Torah avec toutes les forces de son être, avec toutes les forces de son âme, et il parvient à faire de cette étude quelque chose qui va le mener jusqu'à l'action, puisque grande est l'étude qui mène à l'action. Donc c'était tout l'enchaînement des mondes qui est décrit ici, commencé par la Sefira de Chorma, jusqu'à la Sefira de Malchut, c'est-à-dire à partir de la réflexion, un homme, il va passer au sentiment, et ce sentiment, il va animer ses pas, il va lui permettre d'agir dans ce monde, et de faire de ce monde une demeure pour Dieu. De la même façon, maintenant, si on revient à notre histoire, on peut comprendre que l'Amor HaZaken, quand il a entendu les malédictions de la bouche d'un homme qui n'était pas son père, il s'est évanoui, parce qu'il n'a pas entendu la bénédiction qui s'est cachée dans cette malédiction, justement. Et quand son père disait les malédictions, alors il n'y avait aucune raison de s'évanouir. L'Amor HaZaken, il n'entendait pas des malédictions, il n'entendait que des brachot, il n'entendait que des bénédictions. Alors qu'est-ce qu'on voit ici à travers cette histoire? On voit, c'est d'ailleurs une définition de l'Amor HaZaken, il dit le tzaddik, c'est celui qui unit les mondes entre eux. C'est celui qui unit la parole de Dieu, la bénédiction qui se cache dans la malédiction, c'est ce qui est caché dans ce monde matériel, en l'occurrence ici dans une malédiction. Il unit cette bénédiction avec ce monde matériel, et c'est ce qui permet à l'Amor HaZaken d'entendre des bénédictions. Le tzaddik, il unit les mondes entre eux, c'est celui qui va révéler ce qui est illimité dans les limites de ce monde. Et c'est ça le sujet du Dvar Malchut sur les parashiot Be'ar Bechukotai. Pour expliquer cette union entre la matière et l'esprit, cette union qui existe entre les mondes cachés et le monde révélé, le Rabbi va donner plusieurs exemples. Mais il va commencer par nous expliquer que lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé en une seule parole au départ. C'est-à-dire que ça c'est une question d'une Mishnah des Pirkei Avot. Il est écrit, Dieu il aurait pu créer le monde en une seule parole, alors pourquoi il a créé le monde en 10 paroles? Alors le Rabbi vient nous donner une explication, il vient nous dire qu'il y a ce qu'on appelle la matière première, ça c'est le Rambam qui explique, la terre et le ciel sont faits de la même matière, mais cette première matière, elle résulte d'une capacité divine, il n'y a que Dieu qui est capable de créer une chose à partir du néant, et au départ il crée le monde sous une forme qui est commune à tout ce qui constitue tous les êtres de la création, c'est une matière première, à partir de cette matière première, il va former ensuite toutes les différences, c'est-à-dire qu'il crée d'abord une matière, et à partir de cette matière, il va former ensuite toutes les parties de la création dans tous ses détails, dans toute sa diversité, dans toute sa pluralité. Alors, cette différence qui existe entre la matière première et ce monde matériel avec tout ce qu'il contient, c'est la différence qui existe entre le chiffre 1 et le chiffre 10. Entre Ma'amar Echad, c'est-à-dire une parole, et le chiffre 10, les 10 paroles. Les 10 paroles par lesquelles Dieu il a créé le monde, qui s'accordent avec les 10 commandements. Alors on sait que ça c'est le Shla Kadosh qui a expliqué que Dieu y crée le monde matériel au moyen de 10 paroles, mais l'âme du monde, ce qui maintient en vie le monde, ce sont les 10 commandements. Donc ces 10 paroles et ces 10 commandements sont synonymes de pluralité, de diversité. Elles représentent dans la Torah, par exemple, toutes les halachot, les 613 commandements, quand on parle de chaque commandement, chaque détail matériel, chaque partie de ce monde matériel, la pluralité, la diversité qui existe dans ce monde, c'est ce qui équivaut au chiffre 10. Alors que le chiffre 1 représente cette force divine de créer le monde à partir du néant divin. Dieu y va créer, comme on a dit, cette matière première, c'est le Ma'amar Echad, donc c'est le chiffre 1. Et le chiffre 1, il représente ce qui est au-delà du monde. On aboutit à cette conclusion. Ce qui représente ce qui est au-delà du monde, c'est le chiffre 1. Et ce qui représente tous les détails de ce monde, c'est le chiffre 10. Et le tzaddik, comme on l'a dit au sujet de la Morazaken, celui qui unit les mondes entre eux, jusqu'au Rabbi aujourd'hui, c'est celui qui unit ce qui est au-delà du monde, le chiffre 1, avec le monde lui-même, le chiffre 10. Ce sujet-là, il revient sans cesse dans le Dvar Malchut, et on fait attention, vraiment, on se rend compte que c'est révéler l'illimité, c'est le chiffre 1, dans les limites de ce monde, c'est le chiffre 10. Révéler la force de l'essence de l'âme, qui est enracinée dans l'essence divine, c'est le chiffre 1. Dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est le chiffre 10. Révéler la matière avec l'esprit, comme on le dit souvent, on prend l'exemple du mariage entre Yitzhak et Rivka, puisque Yitzhak correspond au Shem Ma, c'est le divin, et Rivka correspond au Shem Ban, c'est la matière, le corps. Le mariage entre Yitzhak et Rivka représente cette union entre la matière et l'esprit. L'Almor Zaken a donné un très bel exemple pour expliquer cela. Il nous dit que la Torah est appelée Kol Yaakov. Kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov. La voix, ça représente, c'est a uni le sentiment qui est dans le cœur avec la matière, avec la parole, puisque les mots qu'on dit sont matériels. Et le sentiment qui se cache dans les mots qu'on prononce, c'est quelque chose d'abstrait. Donc de la même façon que la voix, elle unit quelque chose d'abstrait, un sentiment avec des mots, et comme par exemple quand on entend une personne qui est en train de parler, on peut deviner le sentiment qui se cache dans ses paroles. La voix, elle unit le sentiment caché dans la matière, dans les mots qu'un homme il va prononcer. Et de la même façon, la Torah est appelée la voix de Yaakov, parce qu'elle unit quelque chose d'abstrait, c'est l'esprit divin, avec la matière, avec les mots matériels, comme le Morzaken il explique dans le Tanya, la parole de Dieu, elle descend à travers les mondes jusqu'à s'habiller dans des lettres qu'on écrit avec de l'encre sur du parchemin. Donc on voit que la Torah, c'est l'esprit de Dieu, quelque chose qui est abstrait, divin, qui s'habille dans la matière, dans des lettres sur du parchemin. De la même façon, la voix, elle unit un sentiment profond avec des mots, avec une parole qu'on prononce. Donc on voit que la Torah elle-même, Kol Yaakov, elle exprime aussi cette union entre ce qui est au-delà du monde, le chiffre 1, et le monde, le chiffre 10. Le sujet qui est donné ici, le rabbi nous dit qu'on doit révéler le chiffre 1 dans le chiffre 10. D'une certaine manière, ça veut dire qu'on doit révéler ce qui est au-delà du monde dans ce monde-là. Par exemple, au sujet de l'âme, pour révéler la partie la plus élevée de l'âme, l'essence de l'âme, dans l'âme qui s'habille dans le corps, nefesh, roach, neshama, c'est-à-dire dans les forces de l'intellect, dans les sentiments et dans l'action, pour révéler ce qui est au-delà de l'intellect, dans l'intellect lui-même, on doit effectuer une préparation, on doit se préparer à ça. C'est exactement ça qui se passe pendant le Sfirat HaOmer, pendant le conte de l'Omer. On fait de nous-mêmes un keli, un réceptacle, pour recevoir le dévoilement du don de la Torah le jour de Shavuot, qui correspond au 50e jour, à la 50e porte de la connaissance, qui elle-même pourrait être décrite comme l'exemple du chiffre 1, puisqu'on sait que Moshe Rabbeinu, il a reçu 49 portes de la connaissance, et la 50e, elle ne sera donnée qu'à Mashiach lui-même. Donc cette 50e porte, elle représente vraiment ce qui est au-delà du monde, et c'est comment se préparer pour recevoir ce dévoilement, c'est exactement tous les enseignements qu'on étudie dans le Dvar Malchut, et toujours cette idée-là qui revient dans le fait d'être des kélim, des réceptacles, de purifier notre âme animale, de la transformer de manière à ce qu'elle-même elle devienne divine, de manière à ce qu'on soit capable de recevoir un dévoilement aussi élevé que celui du jour de Shavuot. Le point qui est donné ici dans le conte de l'Omer par le Rabbi dans le Dvar Malchut, il est très intéressant, il est très beau, puisque le Rabbi va expliquer que un jour qui est très important dans Sfirat HaOmer, c'est le 44e jour. 44 en hébreu, ça correspond à même dalet, même la valeur numérique c'est 40, dalet c'est 4, ça fait 40 plus 4, 44. Ce 44e jour de l'Omer, il est très important, puisque le Rabbi vient nous dire qu'on a à ce stade-là du conte de l'Omer, on est parvenu déjà à purifier la majorité de l'âme animale. On est parvenu à transformer l'aspect négatif de notre âme animale en un aspect positif. Et l'exemple qui est donné, c'est celui du lait et du sang. 44, c'est même dalet, c'est dame. Si on inverse les lettres, ça veut dire le sang. C'est que le lait qu'une mère donne à son enfant quand elle allait son bébé, auparavant, le lait, c'était du sang. Et ce sang-là, il s'est transformé en lait. Alors de la même façon, le chiffre 44 dans le conte de l'Omer représente le sang d'âme, 44, qui a été transformé en lait. C'est-à-dire qu'on a transformé le sang de l'âme animale en lait, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a transformé l'aspect négatif de l'âme animale en un aspect positif. Au bout de ces 44 jours du conte de l'Omer, c'est le travail qui s'étend vraiment sur l'ensemble le plus large. Icar Amidot, comme ça il dit le rabbi dans le Dvar Malchut. On a fait le Icar, on a fait l'essentiel. Donc on est arrivé à ce niveau-là où on est parvenu à purifier l'âme animale. Et l'exemple qui est donné au sujet de cet enfant qu'on allait, quand l'enfant il est d'abord allaité au lait, ensuite il est capable de manger du pain de ses propres forces. Le pain c'est la Torah, c'est quel jour dans le Sfirat HaOmer, le fait de manger du pain, il est symbolisé par le jour de Shavuot, le don de la Torah, il correspond à ce moment-là où l'enfant il est capable de manger du pain avec ses propres forces, parce qu'il a été éduqué auparavant à boire du lait de sa mère. Alors de la même façon, en purifiant d'abord notre âme animale, ensuite on est capable de manger du pain, c'est-à-dire de recevoir le jour de Shavuot la Torah. Puis le 45e jour, en ajoutant un jour à 44, 1 c'est la valeur numérique de la lettre Aleph. Si on ajoute la lettre Aleph au mot Dam, qui représente le 44e jour de l'Omer, on obtient Adam, un homme. Profondément, qu'est-ce que ça signifie d'ajouter la lettre Aleph? Aleph, c'est Mahamar Echad, comme on l'a dit au départ. Aleph, il représente ce qui est au-delà du monde. Quand on unit ce qui est au-delà du monde, par la lettre Aleph, avec le monde lui-même, qui est comparé ici au sang, le sang d'âme, la matière, l'âme animale, ce monde matériel, quand on unit ce qui est au-delà du monde avec ce monde matériel, on obtient le mot Adam. Et le mot Adam, il a pour valeur numérique 45, et c'est aussi la valeur numérique du Shem Ma, qui est divin, comme on l'a dit, et qui est allusionné par le nom de Yitzhak Avinu. Cette union entre ce qui est au-delà du monde et le monde lui-même, il s'exprime plus particulièrement par les deux parachotes, par la paracha Béar et par la paracha Bechukotai. Alors Béar, il est écrit dans le Dvar Malchut que Béar, Bechukotai, Nitan, Limso, et Shnei Ainyanim. On trouve donc ces deux sujets-là, Praté à Olam, les sujets de ce monde, Ve'ardut chez Me'al HaOlam, et l'unicité de Dieu, ce qui représente le divin tel qu'il est, Me'al HaOlam, au-delà du monde. Béar, c'est la montagne. À Ar, Nikrat Somer Shebedomen. La montagne représente le fait de s'élever de niveau en niveau. Le fait de grandir de niveau. Comme par exemple par l'étude de la Torah. Quand un homme il étudie la Torah, on dit que l'Éternel vient s'asseoir devant lui et l'étudie avec lui. Donc il élève de niveau en niveau. Et ça rappelle la hauteur d'une montagne. Le fait de s'élever de hauteur en hauteur, de prodige en prodige. Michaël et Chaël. Ça concerne notre travail dans les sujets de ce monde, dans les détails de ce monde. À l'opposé, quand on lit la paracha Bechukotai, on doit comprendre que Bechukotai, c'est Milashon Chakika, le fait de graver. Les lettres des 10 commandements, elles sont gravées dans la pierre. Dieu, il les a gravées dans la pierre. Alors, Chakika, d'un côté, ça représente ces lettres qui sont gravées dans la pierre et qui nous indiquent, qui expriment cette union, le fait que la Torah est fait un avec l'homme qui étudie la Torah. Le rabbi, il avait dit un jour que quelqu'un qui étudie la Torah, quand la Torah est fait partie de lui-même, si on détruit sa Torah, c'est l'homme lui-même qu'on détruit. On doit étudier au point que la Torah est fait partie de nous-mêmes. Ça exprime le bitoul, la soumission vis-à-vis de Dieu. Contrairement à l'étude de la Torah, que c'est un travail du haut vers le bas, c'est le fait d'attirer le divin dans ce monde matériel, de révéler le divin dans des objets matériels. Quand on étudie la Torah, on s'occupe de sujets matériels de ce monde. Et la tefila, c'est le contraire, ça exprime la soumission, c'est la parasha. Les lettres qui sont écrites dans la pierre, qui se fondent dans la pierre, qui font un avec la pierre, ça exprime la soumission. Chakika aussi, c'est la shon chok, c'est le décret, c'est le fait d'obéir à la volonté de Dieu sans même comprendre. C'est pour ça que le rabbi il explique que le décret de la vache rousse, il nous donne l'occasion d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu, d'agir, de respecter sa volonté au-delà de l'intellect. C'est une mitzvah qui nous permet d'exprimer qu'on est totalement soumis à Dieu. Donc ça, c'est la paracha Bechukotai. C'est comme la tefila, elle indique la soumission, le bitoul, la shon oda, le fait de reconnaître la grandeur de Dieu. Et ça, c'était même quelque chose qui s'exprime avec beaucoup de force dans le jour de l'Akba Omer, puisque c'est od sheba od, ça exprime cette totale soumission vis-à-vis de Dieu. On voit qu'il y a cette union qui existe entre le chiffre 1 et le chiffre 10. Ça, on le voit ici dans ces deux parachiotes. Béar, ça représente les sujets de ce monde, les détails de ce monde, c'est le chiffre 10. Et Bechukotai, c'est le fait de se soumettre à Dieu et de se soumettre à son unicité, Hashem Echad. Enfin, pour finir, on pourrait parler de la raison pour laquelle la Torah elle a été donnée dans le désert. Le rabbi nous donne une très belle explication. Il nous dit que le désert, c'est un endroit où les hommes ne peuvent pas habiter, où on ne construit pas dans un désert, on n'habite pas. Dans un désert, ce n'est pas la place de l'homme, c'est un endroit qui n'appartient pas aux hommes, c'est un endroit qui appartient à Dieu. Le désert, il représente ce qui est au-delà de ce monde, comme on l'a dit, c'est le chiffre 1. Et c'est pour cette raison que la Torah, elle a été donnée dans un désert, c'est pour nous apprendre qu'un juif, il ne doit pas se limiter à ce monde, à sa pluralité, à tous les détails qui le composent. Bien entendu, il doit avoir pleine connaissance de ce monde, puisque les 10 paroles s'accordent avec les 10 commandements. On le voit, la pluralité de la Torah, elle s'accorde avec le corps de l'homme. On voit, il y a 613 mitzvot. De la même façon, il y a 613 membres et vaisseaux sanguins dans le corps de l'homme. Et donc, on voit le rapport qui existe entre les deux. Mais on ne doit pas s'attacher seulement à ce rapport, on doit s'attacher à ce qui est au-delà du monde, c'est le désert. C'est-à-dire, c'est le désert ici représente même l'essence divine. On doit révéler ce qui est au-delà du monde dans ce monde matériel. Et là, on peut finir en se rappelant de l'histoire qu'on a racontée au départ, quand on a dit que la Noura Zaken, quand il lit la Torah, alors on entend le sens caché. On va ressentir le sens caché, ce qui se cache derrière les mots. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de s'évanouir, au contraire. Et c'est exactement ce qui se passera au moment du Machar, puisque Torah Chadasha, la Torah nouvelle, elle va révéler ce qui se cache dans la Torah, ce que l'homme il ne voit pas aujourd'hui. Et le Dvar Malchut et tout l'enseignement du Rabbi, c'est un avant-goût, et même ça fait partie même de Torah Chadasha, puisque le Rabbi, il apprend à éveiller nos sens, il nous apprend à écouter, à voir le sens qui se cache profondément dans les mots de la Torah, dans la Torah elle-même. Ça représente la 50e porte de la connaissance, c'est le jour de la Torah, Bezrat Hashem, le jour de Shavuot, qui approche, et avec l'aide de Dieu, on parlera à ce moment-là de tout ce qui concerne ce jour béni et sacré. Shabbat Shalom.